vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre le journal de ce 22 juillet 2021. L'uniformisation des frais de scolarité dans les établissements scolaires privés, une préoccupation des autorités nigériennes, assure la réaction du président des associations des établissements privés dans ce journal. Le commerce de peau était très florissant après la période de Pabaski au Niger. Cette année, pour cause de coronavirus, il connaît des difficultés ayant occasionné la chute des prix, le président des vendeurs grossistes dans cette édition. En partie magazine, le programme d'alimentation scolaire appelé Cantine scolaire, une initiative du gouvernement nigérien pour aider les enfants des localités nomades. Hawa Mamana au micro. Un arrêté du ministère du Commerce du Niger en date du 5 juillet crée un comité technique chargé de réfléchir sur les frais de scolarité des établissements privés. Ce matin, notre reporter a recueilli la réaction du collectif des associations des établissements privés d'enseignement général pour son président. Le sous-secteur de l'éducation au Niger est déjà encadré par la loi. Dandakoy Amadou Jibo, président du collectif, explique au micro de Rabia Maïkanou.
Quand le ministère du Commerce parle de prix, ça veut dire qu'il s'agit de marchandises. Or, nous, au niveau des écoles privées, c'est des prestations que nous faisons. Et déjà à ce niveau, il y a une sorte de contradiction entre eux et nous. Nous n'adhérons pas à cette démarche pour beaucoup de raisons. Et les écoles privées appartiennent à une tutelle, le ministère de l'Enseignement. Donc, et ces écoles privées sont encadrées par des lois. Une loi et puis des décrets arrêtés, donc tout un arsenal des textes qui organisent ce sous-secteur de l'éducation. Et au niveau justement de ces textes-là, il est prévu depuis 1997 la libéralisation des frais de scolarité. Si l'État veut qu'on aille au ministère du Commerce, que l'État se prononce clairement. En ce moment-là, c'est un autre comportement que nous allons avoir par rapport aux textes qui réglementent le commerce.
Après la fête de Tabaski, le marché de Pau est en berne au Niger. Le commerce connaît des difficultés liées aux fermetures des frontières pour cause de Covid. Le prix de la peau, qui était entre 3 000 et 4 000 francs, a chuté de nos jours. Bello Boubacar, vendeur grossiste de peau, explique la situation au micro de Asumana Shina.
Quand on nous amène 20 pots par exemple, à peine nous pouvons avoir 3 ou 4 qui sont de bonne qualité. Tout le reste est gâté. Tu vois, tout cet état-là, ce sont des pots qu'on va jeter dans la brousse. Ce qui a surtout dévalorisé la peau, c'est surtout la pandémie du coronavirus, car personne n'achète des pots pour amener en Europe. Si tu achètes, tu es obligé de l'envoyer à la tannerie de la place pour la travailler. L'année passée, à l'occasion de la fête de Tabaski, j'ai collecté 4000 pots, mais cette année, je n'ai pu collecter que 1000 pots. Car la plupart sont de mauvaise qualité. Ceux qui dépouillent les animaux ne savent pas bien le faire. Une peau de qualité, nous l'achetons à 350 francs. Celle imbibée du sel, nous l'achetons à 500 francs CFA. Mais par le passé, nous avons acheté une peau à 3000. Moi, j'ai acheté une peau jusqu'à 4000 francs même.
Le lendemain de la fête de Tabaski, c'est en principe le début du commerce des peaux. Mais depuis quelques années au Niger, l'industrie de la tannerie se porte mal. Par exemple, la peau qui coûtait entre 3 500 francs et 4 000 francs CFA l'unité se vend actuellement entre 100 et 150 francs CFA à Niamey. Selon le président de la tannerie de Gamkalé, selon lui, l'importation des produits de la Chine et le mauvais état des peaux ont fait chuter la valeur des produits issus de la peau. Yahya Tanko, président de la tannerie de Gamkalé, interrogé par Moussa Hassan.
Qu'est-ce qu'il y a là? Dès le passé, la peau a de la valeur parce que les articles en cuir sont beaucoup appréciés sur le marché. Mais maintenant, la Chine fabrique des articles synthétiques sous forme de cuir qui ont inondé les marchés dont il faut être fin connaisseur pour faire la différence. Ensuite, on ne confie plus le dépouillage des animaux aux professionnels. Et toute peau trouvée ne servira plus à la confection d'un bon sac ou d'une bonne ceinture. C'est pour cela que depuis environ 4 ans, l'industrie de la peau ne rapporte plus. Malgré cela, nous ne pouvons pas abandonner ce métier car c'est ce que nous savons faire le mieux. Sinon, nous avions ici 3 magasins remplis de cuir, avec chacun plus de 5000 pièces invendues. Ce sont les Maliens qui font leur tente en cuir qui restent nos seuls clients.
Globalement, la situation zoosanitaire est très calme et sous contrôle au niveau du département de Tintabaraden, région de Tawa, a déclaré Issa Moussa Tazar, directeur départemental de l'élevage de Tintabaraden. Les rares maladies enregistrées ont été prises en charge par les services techniques de l'élevage de la localité. Issa Moussa Tazar est au micro d'Alamine Ouachar.
Par rapport à la santé animale, on peut dire qu'elle est vraiment très calme. Les quelques maladies que nous rencontrons, en tout cas, ce sont des maladies ordinaires dont on a l'habitude de rencontrer sur le terrain et puis de les prendre en charge. Il s'agit de quelques foyers qui ont été enregistrés relatifs à la clavulée, au charbon bactérien, à la pastorolose. Donc, on peut dénombrer plus d'une trentaine de foyers que nous avons enregistrés. Et l'ensemble de ces foyers ont été maîtrisés suite aux différentes interventions menées par les agents sur le terrain. La seule maladie qui nous dérange beaucoup plus, c'est la pleuropneumonie contagieuse des caprins. C'est une maladie dont on ne dispose pas encore du vaccin au Niger, qui est en train de causer des désagréments au niveau du cheptel sur l'ensemble du département de Tintabaraden. Un autre aspect, c'est surtout le parasitisme qui nous dérange un peu. Ça aussi, avec l'intervention des agents, comme nous disposons assez de produits pour faire face à ce déparasitage massif des animaux.
Le gouvernement des États-Unis d'Amérique a fait don hier aux autorités nigériennes de plus de 150 000 doses de vaccins Johnson & Johnson destinées à la lutte contre la COVID-19 selon une dépêche de l'agence nigérienne de presse ANP du mercredi 21 juillet. Ce don accordé dans le cadre de la facilité COVAX est un premier lot sur un engagement de plus de 300 000 doses prévu pour le Niger afin d'accélérer la vaccination de sa population contre la pandémie, précise la même source. Depuis les attaques de 2020 contre la localité d'Inates, région de Tillabéri, la mairie s'est délocalisée à Ayerou. Selon le maire, les principaux responsables de la municipalité vivent à Ayerou ainsi que les 15 000 déplacés de sa commune. Dans ces conditions, comment les pièces d'état civil sont-elles établies? La réponse de Ahmadou Issalak, maire d'Inates, au micro de Habibou Garba.
Nous avons placé des cahiers de déclaration au niveau de chaque village. Donc nous avons placé les cahiers et il y a les préposés aux écritures qui sont tous avec Ayerou parce qu'ils ont quitté. Maintenant, celui qui veut faire une demande d'acte de naissance, par exemple, ou de mariage ou de décès, il va venir avec son chef de tribu, voir le responsable de l'état civil qui va lui faire établir un bulletin individuel de recensement sur la base de la matrice, bien sûr. Et vous voyez, il lui fait la demande. Quand on est né à Ayerou, c'est à Ayerou d'établir l'acte de naissance, c'est pas à Inates. Parce que ceux qui sont à Ayerou, ils ont la chance d'aller au CSI. Et c'est au niveau du CSI qu'on va leur faire une déclaration. Et maintenant, c'est la mairie d'Ayerou qui va délivrer, parce que c'est né à Ayerou.
L'accalmie revient progressivement dans le village de Fantio, situé dans la région de Tillabéri, à la frontière du Burkina Faso. Pour rappel, les populations de ce village ont été plusieurs fois la cible d'attaques d'hommes armés non identifiés. La dernière date du 7 juillet et a ciblé une église faisant des morts et des dégâts matériels. Aujourd'hui, selon une source locale, les populations vaquent à leurs occupations. Les militaires sont présents et font des patrouilles dans la zone. Par contre, beaucoup de fidèles musulmans n'ont pas fait le sacrifice de la fête de Tabaski à cause du bétail emporté par les personnes non identifiées lors des attaques, précise la même source. Les relations entre les policiers chargés de réguler la circulation et les conducteurs de taxi sont souvent difficiles. Il n'est pas rare d'entendre les taximens accuser les policiers d'abus de pouvoir, une situation déplorable selon Salissou Salamou, chef de bureau par intérim de DECAF, une ONG qui assiste les forces de sécurité au Niger. Pour lui, la police a besoin de la collaboration des conducteurs de taxi pour démasquer ceux qui ternissent l'image de celle-ci. Il est au micro d'Evelyne Danzumbi.
Nous avons institué beaucoup d'activités par rapport aux échanges entre FDS et société civile. Les gens ne voient que la police de façon générale. Donc même la police est en train de chercher des moyens pour mettre la main sur ces genres de personnes, d'agents indélicats. On appelle ça au taximan, qui pense que les policiers ont deux carnets, un officiel et un officieux. Donc s'ils pensent qu'ils ont été victimes de ce genre de carnet officieux là, la solution c'est d'amener ce carnet qu'on leur a donné, qu'ils pensent que c'est vraiment pas le bon, et de le faire connaître auprès de l'inspection générale des services de sécurité qui va mener des enquêtes, essayer de mettre Hors état de nuire, c'est genre d'individus qui, non seulement salissent l'image de la police, et aussi pêchent aux honnêtes citoyens de vaquer à leurs occupations.
Bonsoir, grande sœur. Enfin, aujourd'hui, je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même, tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends, grande sœur. Apparemment, vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah, mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Parti magazine, le gouvernement du Niger a mis en place depuis les années 60 un programme d'alimentation scolaire appelé cantine scolaire, un programme qui consiste à fournir de l'alimentation aux enfants scolarisés des localités nomades. Selon le directeur de la participation de la santé scolaire et de l'éducation environnementale, à travers ce programme, le gouvernement nigérien entend aider les enfants des ménages les plus pauvres à avoir accès à l'éducation, à la santé et à la nutrition. Lawali Abdou, le responsable du programme, donne plus de détails au micro de Nafissa Adamou.
Le programme de l'alimentation scolaire, plus connu sur le vocable cantine scolaire, c'est un programme initié il y a très longtemps, notamment en 1968. On appuyait en vivre les écoles nomades. Vous savez, ces écoles-là avaient la particularité que les parents d'élèves sont des éleveurs et ils sont en mouvement. Et du fait de leur instabilité, les écoles sont fixées et on crée les cantines scolaires. C'est ça même les premières bases de la création des cantines scolaires. Progressivement, avec le temps, l'État avait étendu ses cantines dans les zones sédentaires.
Et comment se présente donc la situation dans tout le Niger? Et en particulier, est-ce qu'ici également à Niamey, on en trouve des établissements où il y a ce programme de cantine scolaire?
Nous sommes aujourd'hui à 12% du pays en termes de couverture en alimentation scolaire. Nous avons aujourd'hui 2602 écoles qui sont vraiment des écoles à cantine, avec des effectifs de 455 559 élèves, dont 205 000 une fille. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ici, à Niamey, il n'y a que les écoles spécialisées qui bénéficient de l'appui en alimentation scolaire. C'est notamment les écoles des sourds, les écoles des malvoyants.
Concrètement, comment elles fonctionnent ces cantines scolaires?
L'État assure le condiment des vivres dans les cantines qui sont aussi appuyées par le PAM. Au niveau de chaque cantine, eh bien, il y a ces personnels d'appui qui préparent aux enfants ces vivres-là, où les denrées sont prélevées en fonction des effectifs des élèves et les enfants mange à l'école. Quand vous prenez les écoles à cantine nomades, eux, les enfants sont hébergés au niveau des écoles. Et donc là, il faut nécessairement assurer les 3 repas par jour. La cantine a l'avantage de créer une certaine sociabilité au niveau des enfants. Et notre ambition, il est vrai, les critères aujourd'hui que nous suivons pour créer les cantines au Niger sont des critères basés sur le nomadisme, la faible scolarisation, sur les difficultés d'accès dans certaines localités, etc. Mais si on doit normalement appuyer l'école, l'accès, la qualité de l'éducation, on doit, je dis bien, si l'État a les moyens, créer les cantines partout.
Et c'est la fin de ce journal. À suivre, le forum délinquance juvénile à Tirezérine, comment y remédier, dans une présentation de Moussa Maman. Bonne réception.